Et bien heureux de partager ces moments avec vous dans la communion fraternelle et à l'écoute, à la méditation de la parole de Dieu. Sans plus tarder, je vais inviter les amis qui ont la Bible ou si les versets, les textes apparaîtront tout à l'heure derrière moi, à faire quelques lectures. D'abord dans l'évangile de Luc au chapitre 4e et à partir du verset 17e. Luc chapitre 4 et verset 17e. Vous avez trouvé, c'est facile à chercher. Et il est écrit ici, on lui remit, c'est-à-dire on remit à Jésus, le livre du prophète Ésaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il était écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Amen. » Et il est peut-être bon de dire déjà que en cet après-midi, Dieu, en Jésus-Christ, veut nous faire grâce. La grâce de Dieu ne s'est pas arrêtée uniquement après ce texte, parce que Jésus a dit une année de grâce, mais béni soit le Seigneur que la grâce, elle est continuelle. Amen. Chaque jour, nous pouvons goûter à la grâce et à l'amour de Dieu. Nous allons faire une deuxième lecture dans l'évangile de Jean, au chapitre 8, si vous voulez bien. Chapitre 8. Et à partir du verset 31, on va lire là deux versets. « Vous connaîtrez, dit Jésus, la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. Et le verset 31 dit, Jésus dit alors aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Et je rappelle, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. » Alléluia. Et une dernière lecture dans Galates au chapitre 5e, nous allons lire là un seul verset, et ce verset, c'est le verset premier qui dit ceci, je pense que vous avez trouvé, « C'est pour la liberté que Christ nous a libérés, demeurez donc fermes, et vous ne remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Amen. » Nous allons donc nous arrêter un petit peu sur ces textes, car vous vous êtes certainement aperçu à la lecture de ces textes qu'il y a un mot qui les relie tous les trois. C'est le mot « liberté » ou « être libre ». Qui dit liberté, dit recouvrir ou avoir la possibilité d'être et de vivre libre. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont fêté ce qu'on en appelle la Pâque. Mais je voudrais simplement vous dire que la Pâque a une signification, c'est la liberté. Vous avez certainement lu ou connaissez les textes bibliques ou les histoires un peu religieuses, eh bien, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a deux Pâques qui se fêtent à des temps différents. Il y a ce que l'on appelle la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Mais si encore là, nous prenions, on va prendre un petit peu de temps, on ne va pas rentrer dans trop d'explications, mais simplement, quand on regarde de près ces deux Pâques, c'est-à-dire que c'est apporter la liberté à l'humanité. La Pâque juive, je rappelle simplement, Elle est toujours fêtée d'ailleurs. Elle a été voulue par Dieu, qui est la Pâque juive, c'est le souvenir de la délivrance du peuple de Dieu lorsqu'il était en Égypte. C'est-à-dire que le peuple d'Israël a été esclave du pharaon d'Égypte, n'est-ce pas, et 400 ans d'esclavage. Et pendant ces 400 ans, eh bien, le peuple d'Israël, ou le peuple de l'Éternel, a élevé sa voix vers le Père Céleste pour qu'il intervienne et qu'il leur apporte la liberté à laquelle ils aspiraient. Être libérés du joug de l'esclavage d'Égypte. Et Dieu va intervenir d'une façon étonnante et miraculeuse. Il a envoyé Moïse, vous connaissez tous le texte. Il y a eu ces 10 plaies. Et la dernière des plaies, c'est quoi? C'est l'agneau offert pour que le peuple d'Israël trouve sa liberté. Et cette liberté qui leur a été accordée au travers de cet agneau sacrifié, mais également au travers de l'obéissance du peuple de Dieu, car il n'y aurait pas eu une réelle et véritable liberté si le peuple d'Israël n'avait pas mis, je vais dire exactement, en action ce que Dieu lui demandait. On parle du sacrifice de l'agneau, mais il y avait tout un préparatif, et puis il y avait aussi cette volonté de Dieu exprimée qu'il fallait mettre sur les poteaux, les linteaux des portes où habitaient les Israélites, le sang de l'agneau qui a été immolé. C'est donc dans ce sacrifice demandé par Dieu de l'agneau, mais aussi de l'obéissance, que le peuple d'Israël a trouvé sa liberté et a pu aller dans le pays promis déjà du temps d'Abraham, c'est-à-dire le pays de Canaan, où coule le lait et le miel. C'est quand même un bon petit repas, ça. Le lait et le miel. Mais il est bon aussi de savoir que Dieu a dit dans Exode au chapitre 3, verset 8, « Je suis descendu pour délivrer mon peuple de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel. » Ça, c'est une bonne nouvelle. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? 400 ans d'esclavage, et voilà que Dieu dit, exprime sa pensée, « Je veux conduire mon peuple dans un pays où il est bon, où il sera bon de vivre, il sera vaste, et là coulera le lait et le miel. » Mais cette phrase exprime une abondance par le verbe « couler », une abondance de bénédiction de la part de Dieu, dans une communion réelle du peuple d'Israël avec Dieu. Et tout cela passe aussi par ce mot que nous avons cité tout à l'heure. La liberté, ils l'auront, mais pour obtenir les bénédictions, il faut qu'il y ait l'obéissance. Dieu exprime cela dans ses pensées lorsqu'il dit qu'il ne prend plus part au sacrifice, mais qu'il prend part à l'obéissance de sa parole. Et à partir du moment où on obéit à sa parole, eh bien, Dieu fait suivre sa parole de bénédiction. Et quand on est béni de Dieu, on est triste. Hein ? Non, j'ai fait esprit pour savoir si vous suivez, comme il y a eu le repas de Pâques, je me dis, ils vont pas tarder à dormir, alors... Non, quand on reçoit les bénédictions de Dieu, on est heureux. Mais j'oserais dire que sans avoir les bénédictions, à partir du moment où on est obéi à Dieu, on est heureux. Dites pas tous amen, hein. Parce qu'un chrétien, logiquement, doit se réjouir de connaître Dieu, de vivre avec Dieu, d'expérimenter la parole de Dieu, quels que soient les temps et les circonstances. Je ne dois pas seulement être heureux quand Dieu me bénit, mais je dois être heureux 24 heures sur 24. Et voyez-vous, tout cela dépend de là où on place la joie et le bonheur en Dieu. Si je me réjouis seulement quand il me bénit, excusez-moi, mais je vais dire on est à côté de la plaque. Mais on doit être heureux, non pas à cause des bénédictions qu'il nous accorde, on doit être heureux à cause de la vie éternelle qu'il nous a accordée et qu'il nous a donnée. Bon, je vais vous aider à être heureux. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans le livre de vie. C'est-à-dire que tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui acceptent l'amour de Dieu, tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, on va en parler tout à l'heure, tous ceux qui acceptent le sacrifice de Jésus, qui le reçoivent dans leur vie ou qui confient leur vie à Jésus-Christ et à Dieu, ce sont des gens, par leur engagement, qui auront le nom, leur nom, inscrit dans le livre de vie. Ce qui veut dire qu'ils auront en eux la certitude de la vie éternelle ou l'espérance de la vie éternelle. Et je crois, et j'espère que je ne suis pas le seul, que quand on a en soi, par le Saint-Esprit, cette certitude que notre nom est inscrit dans le livre de la vie et de la vie éternelle, on ne peut pas être triste. On peut être triste parfois pour les circonstances d'un départ, mais ça va passer, c'est que quelques temps. Je dis ça parce que quelqu'un pourrait me dire à la sortie, « Oui, mais Jésus, il a été triste. » Ça, c'est sûr, il a été triste. Il a été triste quand il a pleuré sur Jérusalem. Pourquoi ? Parce qu'il va dire aux gens de Jérusalem, « Combien de fois je suis venu, combien de fois j'ai voulu vous accueillir et même vous protéger comme une mère poule veut protéger ses poussins de l'ennemi, hein, de l'aigle ou d'autres rapaces qui peuvent exister. J'ai voulu, et Dieu va dire, mais, Jésus va dire, mais vous n'avez pas voulu. » Et Jésus pleura. Il était triste parce qu'il savait que ceux qui n'avaient pas cru allaient périr dans leur péché. Voyez-vous ? De même, on peut citer l'exemple de Jésus qui a aussi pleuré où, entre autres, il a pleuré au tombeau de Lazare. Jésus pleura parce que Jésus qui aimait tous les êtres, puisqu'il a donné sa vie pour cela, il a aimé Lazare parce qu'on disait que Jésus et Lazare étaient amis. Et quand Jésus s'est approché du tombeau, il a versé des larmes. Mais ensuite, nous savons que tout cela fut changé en joie. Non ? Puisque Jésus a ressuscité Lazare. Alors que les hommes disaient que ce n'était pas possible, alors que même les sœurs de Lazare disaient à Jésus, « C'est pas possible, il est mort depuis 4 jours, il sent déjà, il était en état de décomposition. » Oui, mais Jésus a souvent souligné que rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus va dire, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ? Et Jésus va te commander à Lazare de sortir et à stupéfaction de tout le monde qui était là, Jésus fit venir Lazare par sa parole. Lazare, sors ! Et en un instant, Lazare était debout, vivant, à l'entrée du sépulcre. Alléluia ! Jésus, c'est celui qui change les peines en joie. Alléluia. C'est merveilleux. Vous savez, quand on lit le peuple d'Israël, il a été, je l'ai dit, pendant 45 ans dans l'esclavage. Mais le jour où il est sorti, vous imaginez ? Non, vous ne pouvez pas imaginer, parce que vous n'y étiez pas. Mais on peut quand même imaginer. Ils sont sortis dans la joie, vous ne croyez pas ? En plus, ils ne sont pas partis les mains vides, ils sont partis les chariots pleins de tout ce que les Égyptiens leur avait donné. Et ce qu'il leur avait donné va servir à construire le tabernacle dans le désert. Dieu pense à tout. Dieu prévoit tout. Et tous nos projets doivent être dans les mains de Dieu et lui faire confiance. Et quand on lui fait confiance, Il bénit et il change nos peines en joie. Alléluia. Vous savez, le lait et le miel, ce sont l'image de la parole de Dieu. Alors, je vais vous citer deux textes, je ne vais pas les commenter, mais deux textes pour vous démontrer qu'en fait, c'est l'image, le lait et le miel, parce que certains peuvent se poser la question. 1 Corinthiens chapitre 3, 2, Paul dit aux Corinthiens, « Je vous ai donné du lait à boire, non une nourriture solide parce que vous ne pouviez pas la supporter, mais même maintenant, vous ne pouvez toujours pas la supporter. » Je vous ai donné du lait à boire. Et vous pouvez là aussi imaginer que lorsque l'apôtre Paul parle ainsi, il n'est pas venu avec quelques bidons de lait pour distribuer du lait à la foule qui était devant lui. Alors si ce n'est pas du lait que l'on boit qu'il leur a donné, ça veut dire qu'il leur a donné la parole de Dieu. La parole de Dieu. Et Paul va dire à ces gens de Corinthe, il va leur dire, je vous ai donné non pas une nourriture solide, mais quelque chose que vous pouvez supporter. Parce que si je vous avais donné de la nourriture solide, vous n'auriez pas pu la supporter. Et il ajoute, vous ne pouvez même pas aujourd'hui la supporter. Et des fois, quand je lis ces versets, je me dis, est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui, est-ce que moi-même, je peux supporter la nourriture solide. Et pourtant, chaque enfant de Dieu, chaque chrétien, chaque homme, chaque femme qui se tourne vers le Seigneur doit être apte à supporter la nourriture solide, ou je dirais les conseils solides que Dieu nous donne au travers de sa parole pour que nous puissions obtenir la vie éternelle. Alléluia. Et les conseils de Dieu, la nourriture solide nous amènera à faire des sacrifices dans notre vie. Non pas des sacrifices d'animaux, des sacrifices de ceux que nous tenons à cœur personnellement et qui sont en contradiction avec ce que la parole de Dieu nous demande. Alléluia. Pour notre salut éternel. Non, pardon, excuse me. Est-ce que vous saisissez bien le sens? Est-ce que je pourrais prendre un exemple? Je vais prendre cet exemple parce que je l'ai entendu et c'est un petit peu de fois triste. Par exemple, le Seigneur nous dit dans sa parole, c'est un exemple, il nous dit, mais c'est ses paroles, qui nous dit d'être patient. Oui. Nous dit d'être doux. Oui. Mais des fois, bref. Et un jour, je me suis entretenu avec un homme, et pas dans cette région, comme ça personne ne se sentira, avec un homme qui avait un caractère fort. Quand je dis homme, c'était même un chrétien, caractère fort. Et au résultat de la conversation, pour lui expliquer qu'il devait aussi être doux avec sa famille, avec son épouse, qu'il devait la comprendre, il avait un caractère fort. La seule réponse que j'ai eue à la fin, c'est « Je suis comme ça et je resterai comme ça. » Il aurait dû normalement sacrifier son caractère, changer, demander au Seigneur d'être changé. Oui, c'est un exemple parmi d'autres. Nous devons dire au Seigneur, au travers de sa parole, « Seigneur, parle-moi » et de ne pas avoir peur de dire « Change-moi ». Fais de moi un être meilleur. Alléluia. Et si j'ai des choses qui ne sont pas en conformité avec la parole de Dieu, eh bien je dis « Seigneur, brise-moi ». Et non pas lui dire, Seigneur, tu m'as fait comme ça, je reste comme ça. Parce que des fois, le Seigneur, il ne nous fait pas comme ça, c'est nous qui devenons comme ça. Hein? Seigneur, aide-nous à te ressembler. Amen. Vous savez, dans un autre verset, c'est David qui dit cela, non, un des auteurs du psaume 119 dira, verset 103, « Quelle douceur je trouve à ta parole, elle est meilleure que le miel. » Oui, elle est meilleure que le miel, c'est vrai, c'est vrai. Mais permettez-moi de vous citer cet exemple, le miel. Quand nous allons nous en procurer, par exemple dans les supermarchés ou ailleurs, on va chercher le miel. Et c'est vrai que suivant le miel que l'on achète, l'un est plus doux que l'autre, mais il est quand même doux, il est plus doux que l'autre. Mais allez directement à la ruche. Vous avez déjà fait cette expérience? Non. Vous allez aller directement à la ruche et vous allez demander à ce qu'on vous donne du miel de la ruche, c'est-à-dire qui n'a pas été traité. Vous allez goûter le miel, mais quand vous allez mettre la petite cuillère de miel, vous allez sentir que le miel, il est âpre. Au premier abord, ça vous fait un drôle de choc. Puis vous le laissez un petit peu et il va glisser, et au fur et à mesure qu'il glisse, vous allez dire qu'est-ce qu'il est doux. Ça, c'est la parole de Dieu. Au premier départ, on entend des choses qui parfois nous hérissent parce qu'on n'est pas en accord avec elles. Et pourtant, si on se met en accord avec elles, si on l'écoute, si on la laisse pénétrer dans nos cœurs, on va la trouver plus douce que le miel. Elle va nous faire du bien. Elle va nous encourager. Elle va nous fortifier. Elle va nous vivifier. Elle va nous diriger. La parole de Dieu. Tout cela pour que nous arrivions où? Vers le pays promis, qui est pour nous, non pas le pays de Canaan, mais qui est pour nous le pays de la vie éternelle. Quand on regarde encore ce peuple hébreu, eh bien, il nous est dit ceci dans le psaume 16, verset 11, « Parce que le peuple hébreu considère que le lait et le miel sont un don de Dieu pour le bonheur de l'homme. » C'est beau, ça. Le lait et le miel sont nécessaires pour le bonheur de l'homme. Amen. Bon. Moi, je me rappelle depuis tout gosse un petit cœur qu'on ne chante plus. J'allais dire des lustres que je n'ai plus entendu chanter, mais moi, je le chante. Si tu veux le bonheur, le vrai bonheur, laisse entrer Jésus dans ton cœur. Amen. Mais quand je dis « laisse Jésus entrer dans mon cœur », cela fait sous-entendre « laisse la parole de Dieu rentrer dans ton cœur ». Laisse la parole de Dieu te transformer. Laisse la parole de Dieu t'aider à devenir meilleur. Laisse la parole de Dieu t'amener à la repentance, parce que tu es pécheur et tu as besoin de repentance. Laisse la parole de Dieu agir dans ton cœur et tu auras la vie éternelle. Alléluia. Dans le psaume 16, verset 11, il est dit ceci, écoutez bien. « Mais tu me montreras le chemin qui mène à la vie, là où l'âme est rassasiée de joie. » Attendez, ça va mieux là? Tu es rassasié de joie? Eh oui. Face à face avec toi, on goûte les joies sans mesure, un bonheur qui ne finira jamais. Alléluia! Amen. Soyez joyeux. Vous savez, entre nous, prenez pas ça rebrousse-poil. Parce que chacun, je ne vais pas me contredire, mais je vais dire chacun a son caractère, hein. Moi, je suis du midi. Ça se voit peut-être, ça se sent, je ne sais pas. Mais nous, là, dans le midi, on a la chance, on a le soleil. Vous, ici, vous avez la neige et les cassures qui vont avec. Nous, on est heureux, tranquille. On entend les choiseaux, les oiseaux, les cigales, voilà. On ne fabrique pas la joie. La joie, elle se donne. La joie, elle se partage. La joie se communique. Et quand je dis la joie se communique, un chrétien, je le crois parce que la Bible me le dit, sans rentrer et s'esclaffer, il doit exprimer la joie. J'en ai parlé il y a quelque temps à Faverges. Peut-être qu'un jour je vous le dirai. le chrétien doit trouver sa joie dans la source de la joie. La source de notre joie, c'est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Parce que imaginez-vous parler du Seigneur, je ne sais pas si on peut, si c'est possible, peut-être que oui, hein, mais de parler du Seigneur sans que celui, notre interlocuteur ne ressente pas la joie que nous avons de connaître Jésus-Christ, on va peut-être avoir du mal à le convaincre. Mais bien que ce n'est pas nous qui convainquons les gens, mais c'est le Saint-Esprit. Mais si on partage la joie, la personne qui nous écoute va ressentir aussi cette joie. Et il va dire, il faut que je connaisse la joie qui anime cette personne. C'est-à-dire, il connaîtra la personne de Jésus-Christ. Nous avons une joie qui ne tarira jamais. Le bonheur ne finira pas pour l'enfant de Dieu, pour l'homme, la femme qui se tourne vers Dieu et qui accepte le Seigneur Jésus comme son sauveur. Et cela nous fait penser maintenant à la deuxième Pâque qui est la Pâque chrétienne. Vous avez la Pâque juive et vous avez la Pâque chrétienne qui ne se fête pas ni le même mois ni le même jour. Mais si nous pouvons faire une petite comparaison, je dirais simplement ceci, c'est que pour trouver la liberté, le peuple d'Israël, et pour trouver le pays promis, le peuple d'Israël a dû sacrifier un agneau. Pour nous, aujourd'hui, je dis tout à l'heure qu'il n'y a plus de sacrifice. Il n'y a plus de sacrifice parce qu'il y a eu un sacrifice, un grand sacrifice. Nous avons la liberté réelle des enfants de Dieu à partir du moment où nous croyons que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous. Et le sacrifice de Jésus sur la croix, c'est vrai qu'il a fait don de son corps, mais la parole de Dieu l'appelle aussi l'agneau pascal. C'est lui, l'agneau, qui a été sacrifié pour chacun d'entre nous afin que nous soyons sauvés pour l'éternité. Et nous savons que le Seigneur Jésus, en montant sur la croix, eh bien, a donné son sang. Il a versé son sang, suivant les termes, mais c'est la même chose. Il a donné sa vie, il a donné son sang, il a donné de sa personne. Mais il a été aussi obéissant à Dieu pour accomplir cet acte d'amour envers l'égard de chaque homme et de chaque femme ici-bas. Mais si vous voulez bien aussi remarquer les paroles de Dieu, il nous est dit, écoutez bien, aujourd'hui, seul, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Quand il a donné son sang, il a donné le sang pour chacun d'entre nous, son sang pour chacun d'entre nous. Et celui qui croit au don de Jésus-Christ au calvaire, celui qui croit à ses blessures et à son sang versé, celui qui reconnaît ses fautes au pied de la croix, dans la présence de Jésus, qui reconnaît qu'il est un pécheur, mais que maintenant, dans l'amour du Christ, il comprend son sacrifice, et le don de sa vie pour lui ou pour elle, alors il nous est dit, le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché. Et aujourd'hui, vous qui êtes frères et sœurs, ayez cette certitude, parce que la Bible nous révèle, nous sommes, vous êtes, je suis, couverts du sang de l'agneau. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est beau ça. Je suis couvert, j'ai une protection. L'adversaire de mon âme ne pourra pas me nuire, parce que je suis couvert du sang de l'agneau. Et parce que dans le nom de Jésus que j'invoque jour après jour, que le chrétien invoque jour après jour, il est gardé et il est béni. Vous qui avez donné votre cœur à Jésus-Christ, j'espère que vous n'allez pas confondre, mais je suis obligé de prendre, vous êtes en marche vers la vie éternelle. Alléluia. Vous ne confondez pas hein, aujourd'hui, parce qu'il y en a qui vous parlent d'être en marche, mais ce n'est pas celle-là. Yes. Être en marche vers la vie éternelle. Alléluia. Amen. Quand j'étais jeune, on m'a fait chanter ce petit chœur. Peut-être que la sœur Ré s'en souvient. Ah, je suis joyeux, dites-moi pourquoi. Vous connaissez ce petit chœur? Vous ne connaissez pas. Pourtant, vous êtes jeune comme moi. Ah, je suis joyeux, dites-moi pourquoi. Tiens, si je vous posais la question, vous me répondriez quoi? Ah, je suis joyeux, dites-moi pourquoi. Et la réponse est donnée dans le petit cœur, il dit, parce que Jésus est mon ami. Ah, mais... Vous n'avez pas fait les colonies de vacances, ça se voit. Ah, je suis joyeux, dites-moi pourquoi? Parce que Jésus est mon ami. Je vous dis de suite que je ne me rappelle plus les autres phrases derrière. Mais celle-là, je m'en souviens. Et je la vis tous les jours. Je suis heureux parce que Jésus est mon ami. Et je marche avec lui, il marche avec nous, il nous conduit, il nous amène vers la liberté des enfants de Dieu. En jetant sa vie sur la croix, Jésus, vous savez ce qu'il a fait? Il a ouvert les portes du ciel. Et quiconque veut aller au ciel doit passer par la croix, doit venir à Jésus-Christ, comme nous venons de le dire tout à l'heure, parce que Jésus a donné sa vie pour chacun d'entre nous. Il est écrit dans Thessaloniciens chapitre 4, verset 14, « En effet, si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts, c'est-à-dire les enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. On l'a entendu tout à l'heure, ils ressusciteront quand Jésus apparaîtra. » Mais il y a quand même une autre consolation, parce qu'il y en a, oh, il faut mourir, ah ben ça je ne peux pas vous dire, parce qu'il est écrit, et nous les vivants, nous irons à leur rencontre sur les nuées du ciel, pour entrer avec tous dans la vie éternelle. Alléluia! Gloire à Dieu! Vous ne voulez pas faire de cauchemar la nuit? Pensez que vous êtes sauvés. Vous allez dormir tranquille. Non? Vous ne faites pas de cheveux blancs des fois, vous dites si le Seigneur revient cette nuit, est-ce que je vais être sauvé? Mais bien sûr, tu vas être sauvé. Que nous dormions ou que nous travaillions, dit le texte, nous serons tous sauvés si nous avons donné notre cœur à Jésus, parce que le Seigneur a payé de sa vie. Et dans sa vie, nous trouvons la liberté des enfants de Dieu. Alléluia. Nous sommes libres, libres, comme nous le chantons, libres de toute chaîne. Amen. Parce que, en apparence, là, pour certains, peut-être parmi nous ce soir ou cet après-midi, vous vous croyez libres. Vous vous croyez libre de faire ce que vous voulez. Mais moi, je vais vous dire non. Vous êtes mené par le bout du nez. Vous êtes dirigé par quelqu'un qui s'appelle le diable. Et il vous fait voir, penser et dire ce qu'il veut. Mais vous, vous dites, je suis libre. T'es pas libre. Ou non. On est esclave. Tout à l'heure, j'ai pris l'esclave de celui qui dit... qu'il ne changera pas. Il est esclave quoi? De sa colère. Esclave de sa méchanceté. Il est esclave. Mais quand le Seigneur vient dans la vie, dans le cœur de quelqu'un, il le libère. Et normalement, l'homme ou la femme querelleuse, quand elle a Jésus dans son cœur, ils deviennent doux et douce. Bon, je comprends que vous ne dites pas « Amen ». Bon, je vais changer doux et douce. Il doit être, ou elle doit être, patient. Il y a eu un amen timide, là. Et oui, je vous dis tout ça parce que c'est écrit dans la Bible, hein, je ne l'invente pas. Alors, être chrétien, c'est bien. Dire que je suis passé par les eaux du baptême, c'est bien. Mais excusez-moi, c'est pas ça qui sauve. C'est pas ça qui sauve. Le baptême, c'est quoi? C'est l'engagement d'une bonne conscience à aimer, à suivre et à servir Dieu. Et le Seigneur ne nous dit pas que tu vas être sauvé à cause du baptême, mais tu vas être sauvé à cause de ton obéissance. Ou non? Vous voulez que je vous donne un petit exemple? Si je suis trop long, vous faites ça, je coupe. Hein. Mais par exemple, je me répète là, mais un exemple. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais enfin... Admettons que vous avez pris la décision d'aller en Amérique. Mais vous ne rentrez pas en Amérique comme ça. Hein. Ce n'est pas parce que vous dites, tiens, je vais prendre l'avion, je vais aller en Amérique, passer quelques jours là-bas. Non, non, non. La première des choses qu'il faut faire, c'est faire un passeport. Vous le savez, ça. Donc, vous arrivez en Amérique, la première des choses qu'on va vous demander, comme dans d'autres pays, hein, parce qu'il n'y a pas que l'Amérique, mais j'ai pris celui-là. Simplement. La première, quand vous arrivez dans l'aéroport, on va vous demander quoi? Passeport. Vous ne l'avez pas, on va vous mettre en transit et le prochain avion, vous repartez d'où vous venez. Vous ne rentrez pas. Le passeport, c'est le baptême. Vous me suivez là toujours? Bon. Maintenant, amusez-vous aux États-Unis. Vous rentrez avec votre passeport. Vous rentrez aux États-Unis. Vous êtes en Amérique, New York, Manhattan, où vous voulez. Hein. Au bord de l'eau, à la montagne. Vous allez où vous voulez. Et puis d'un seul coup, vous vous amusez à voler, à faire les... Vous allez être arrêté et condamné. Et si vous tuez et que vous êtes reconnu coupable, vous risquez la peine de mort. Ce qui veut dire que quand vous allez dans un pays où vous pourriez rentrer, il faut le passeport. Et une fois que vous y êtes, qu'est-ce que vous devez faire? Hein? Obéir, être soumis aux lois. La Bible, c'est la loi de Dieu. Le baptême, c'est le passeport. Mais la loi, elle est là. Non. Je vais revenir en France. En France, on est bien. Mais nous avons, si je me trompe, vous me reprenez, Stéphane, tu auras le droit de me reprendre. Mais nous avons ce qu'on appelle le code civil. Nous avons des lois. Oui ou non? Si vous ne respectez pas la loi, vous allez en tôle. Vous avez un PV. Non? Vous pourrez peut-être dire, ouais, mais il était mal garé. Vous pourrez tout dire. Le policier veut dire, la loi, c'est la loi. Le permis, c'est le permis. Il y a des lois. Il ne faut pas les enfreindre. Si on les enfreint, au bout, on a la punition. Alors peut-être vous allez dire, policier ou un homme de loi, vous allez lui dire, mais je ne savais pas. Et vous savez ce qu'il va vous répondre? Nul n'est censé ignorer la loi. J'ai l'impression que je vous ai oublié là, vous m'avez lâché là. Vous ne pourrez pas dire à Dieu, je ne savais pas, surtout si vous vous êtes engagé par les eaux du baptême. Vous n'aurez pas à dire à Dieu, je ne savais pas. Je ne souhaite pas que vous l'entendiez, mais il risque de vous dire menteur. Hein? Oui. Alléluia. Non, je ne dis pas Alléluia parce qu'il faut désobéir, je dis Alléluia parce qu'il faut obéir. Hein. Non pas à un homme, non pas à une religion, mais obéir à Dieu. Un homme religieux ne vous sauvera pas, quel qu'il soit. Une religion ne vous sauvera pas, quelle qu'elle soit. Jésus vous sauvera, oui, à condition de faire sa volonté. Et sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu, c'est que nous observions sa parole. Celui qui n'observe pas la parole, dit la Bible, est un menteur. Alors il faut prendre la décision de vivre avec le Seigneur Jésus et de vivre avec lui. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 16, il est dit ceci, « Notre Seigneur Jésus-Christ lui-même et Dieu notre Père nous ont témoigné tant d'amour et par grâce nous ont donné une source éternelle de réconfort et une bonne espérance. » Amen. Une bonne espérance. Alors, vivons suivant la parole de Dieu. Acceptons de croire au sacrifice de Jésus et soyons libérés. Je vais quand même prendre un petit peu le temps de vous dire encore deux versets, si vous le permettez. Merci pour le oui. Moi, ce que j'ai entendu des voix, peut-être. Écoutez bien, mais je vous demande de bien écouter. Vous tous qui êtes là, dommage pour les autres. Galates, chapitre 5, versets 19 à 21. Écoutez bien. Les œuvres de la nature humaine, si vous préférez, les œuvres de la chair, sont évidentes. Ce sont l'adultère, l'immoralité sexuelle, l'impureté, la débauche, l'idolâtrie, la magie, les haines, les querelles, les jalousies, les colères, les rivalités, les divisions, les sectes, l'envie, les meurtres, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Vous avez tout noté? Et écoutez bien la fin de ce verset. Je vous préviens, comme je l'ai déjà fait, ceux qui ont un tel comportement, écoutez bien, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ouais. Oh, je sais que peut-être en évangélisation, on n'est pas tellement habitué à entendre ces choses. Mais si on ne les dit pas, comment vont-ils changer? Comment vont-ils être transformés? Comment vont-ils être placés devant leur état de péché? Car tout cela, c'est le péché. Et le péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alléluia. Voyez-vous? Bon, allez, on ne va pas rester sur cette phrase. On va en lire un autre de verset. Ça va vous réjouir. Puis au moins, on va rester copains. Colossiens chapitre 3, versets 12 et 14. Ainsi donc, en tant qu'être choisi par Dieu, c'est-à-dire être enfant de Dieu, saint et bien-aimé, revêtez-vous, écoutez bien, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement. Tout comme Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Mais par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Alléluia. Bon, ben ce soir, vous allez faire un exercice. En rentrant à la maison ou avant de vous coucher, essayez de vous rappeler ces deux versets. Commencez par lire le premier. Et puis, devant chaque affirmation, vous mettez « oui » ou « non ». En haut, vous marquez plutôt « je respecte » avant et « je respecte pas ». Puis, vous dites « oui » ou « non ». Si vous avez que des « oui », c'est pas bon. Pour le premier verset. Si vous avez que des noms, vous êtes bon. Et si vous avez moitié de oui, moitié de non, vous êtes pas bon. Parce que pour être bon, il ne faut pas être tiède. Il faut être chaud. Et vous faites la même chose pour le second. Mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je suis en train de vous dire. C'est simplement pour que vous pensiez qu'on ne va pas au ciel comme ça. Qu'on a à respecter ce que la Bible nous enseigne. Non. Vous savez, dans la parabole, il est cité pas mal de paraboles. Mais notamment, nous avons la parabole des ouvriers, notamment de ceux à qui on l'a confié. Confié. Le maître étant parti, il a confié quelques pièces d'argent à l'un et à l'autre. Alors, un de 5 pièces, il les a fait fructifier. L'autre, 3 pièces, il les a fait fructifier. Et le maître, il était content. Il a dit, vous êtes des bons serviteurs, n'est-ce pas? Et le dernier, lui, c'était un mauvais serviteur. Les deux premiers ont pu entendre entre bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Vous voyez qu'il est possible d'être joyeux jusqu'au bout. Hein? Mais au dernier, il lui a dit, prenez-le et jetez-le dehors. Et il a terminé en enfer. C'est ça l'image. Parce qu'il n'a pas été fidèle, parce qu'il n'a pas fait ce que le Seigneur, le maître lui demandait, il lui avait donné pour qu'il fasse prospérer ce qu'il lui avait donné. Mais non, il a dit, oh, j'ai eu peur, j'ai craint, il a un tas d'excuses. présentons-nous devant le Seigneur en toute humilité, mais en ayant à cœur le service pour le Maître, en ayant à cœur de faire ce qu'il nous enseigne, de mettre en pratique ce qu'il nous dit, afin que jour au jour où il apparaîtra, alors nous puissions entendre le divin Maître nous dire « Entre, entre bon serviteur, entre bonne servante, entre dans la joie de ton Maître. » Amen. Alléluia. Parce que si vous lisez l'Apocalypse, quand même, il faut savoir que dans le ciel, il y a de la joie. Il y a beaucoup plus de joie pour un pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Mais quand on sera dans le ciel, n'oubliez pas qu'il est écrit que cela sera les noces de l'agneau. De celui qui a donné sa vie au départ, nous le retrouverons, l'agneau pascal, nous le retrouverons dans le lieu céleste et nous participerons aux noces de l'agneau. Amen. Alors j'espère qu'on se retrouvera là-haut. Alléluia. On va bénir le Seigneur et on va lui dire merci d'avoir donné ta vie pour nous. Merci de ce que tu es.